Boulon manquant, votre rendez-vous neurosciences. L'émission dans laquelle nos neurones roulent des mécaniques. Un jeudi par mois, à 18h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
L'article du jour s'intitule « Discovery Stack Pilot, Feasibility and Outcomes of a Scientist-Designed Peer Review Model Separating Quality and Impact » ou « Proposition d'un modèle alternatif de peer review scientifique pour séparer la qualité de l'impact ». Il est paru sur le serveur BioArchive le 12 novembre 2025. Chère tête bien faite, bonsoir et bienvenue au Boulon manquant. Et bien évidemment, bonne année à vous. Avec ou sans résolution, nous entrons tous symboliquement dans une période nouvelle. Une envie de changement et souvent d'espoir qui peut nous inspirer différemment selon les communautés auxquelles on appartient. Alors, de quel changement peut-on avoir envie dans la communauté scientifique ? La recherche est un pilier de notre société qui repose lui-même sur plusieurs piliers. Si le soutien matériel et la communication étaient les deux premiers fondements d'un trio indispensable, le peer review en serait probablement le troisième. Pourtant, il est souvent peu connu du grand public. La révision par les pairs, ou peer review, est un procédé qui s'est installé progressivement dans la communauté scientifique depuis le début du XXe siècle. Mais c'est surtout à partir des années 70, quand la production scientifique est devenue plus dense et rapide, que le peer review est devenu un outil pour évaluer et sélectionner les manuscrits soumis aux éditeurs. Lorsqu'une équipe souhaite faire publier un article dans une revue scientifique, elle lui envoie un manuscrit, une sorte de version bêta de l'article sans la mise en forme, accompagnée d'une lettre expliquant l'intérêt de leurs travaux pour la dite revue. Si l'éditeur est intéressé, il envoie le manuscrit à deux ou trois chercheurs indépendants reconnus pour leur expertise dans le domaine concerné. Ce travail est bénévole, aucune gratification n'est accordée. Les volontaires ainsi choisis analysent soigneusement le manuscrit pour vérifier si les conclusions qu'il défend sont bien étayées par les résultats expérimentaux. Ils envoient ensuite leur compte-rendu respectif à l'éditeur, qui prend l'une des trois décisions possibles. Publier le manuscrit, le rejeter ou, le plus souvent, demander aux auteurs des modifications selon les commentaires des experts. Il n'est pas rare, pour les grandes revues, de faire passer à un manuscrit plusieurs tours de modification-révision qui impliquent souvent des expériences supplémentaires à la demande des pairs. Voilà le principe sur lequel repose la qualité de la recherche scientifique encore aujourd'hui. Mais depuis les années 70, le monde a bien changé. Aujourd'hui, nous allons parler des limites du système actuel autour du peer review et de quelques alternatives que la communauté scientifique développe pour y remédier. Étape 1. Un système à revoir. Pour peu qu'on dispose d'une plateforme virtuelle, on peut communiquer ses travaux au monde entier. Or, les éditeurs de revues scientifiques ont maintenu leur position d'intermédiaire. Et en plus de facturer un abonnement à ceux qui souhaitent les consulter, ils peuvent faire payer la publication aux auteurs dont ils acceptent les articles. Les coûts varient selon la présence d'images, la taille de l'article, ou si les auteurs souhaitent le publier en libre accès, une possibilité apparue grâce à Internet. Elle rend l'article accessible à tout le monde, y compris aux non-abonnés. Chez Nature, qui représente encore un accomplissement dans une carrière de chercheur, la publication classique ne coûte pas forcément d'argent, mais le libre accès coûte 10 690 euros par article. En 2020, lorsque ce prix était de 5 190 euros, il représentait un budget de 3 millions d'euros pour le CNRS et 30 millions pour la recherche en France. Dans ce système, les institutions qui financent, comme l'État, paye trois fois. Pour la recherche en elle-même, pour accéder aux publications scientifiques et pour faire publier les résultats de ces recherches. En plus d'être coûteux, ce système est lent. Avec l'augmentation de la concurrence et l'amélioration des techniques expérimentales, les standards auxquels un article doit se conformer pour être publié ont augmenté aussi. Or, une équipe ne peut soumettre son manuscrit qu'à une revue à la fois. Même en supposant que l'article ne soit pas refusé au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois après avoir ajouté des expériences, le temps d'attente entre la première soumission et la publication dans une revue, surtout si elle est prestigieuse, peut facilement dépasser une année. La dépendance aux revues induit un autre effet pernicieux. Comme une poignée d'entre elles sont beaucoup plus consultées et prestigieuses que les autres, les articles qu'elles relaient bénéficient d'un biais. S'ils ont plus de chances d'avoir un impact, c'est que leurs travaux doivent être de meilleure qualité que les autres. La qualité étant définie par la rigueur scientifique d'un article et non par ses conclusions, un article de grande qualité ne sera pas forcément d'un grand impact. Cette course à la publication décourage aussi les travaux qui visent à reproduire les résultats d'autres études. La confirmation de résultats déjà publiés n'intéressera pas beaucoup d'éditeurs et le crédit ne sera accordé qu'aux auteurs originaux. Pourtant, ce genre de travaux est indispensable, que cela concerne des études à la méthodologie fiable mais imparfaite ou des fraudes pures et simples qui ont échappé à la vigilance de la peer review. Voilà en partie pourquoi de nombreux domaines de recherche, notamment la psychologie et la médecine, sont accablés par une crise de reproductibilité. En 2016, sur les 1500 chercheurs que Nature a interrogés dans un sondage, 70% ont affirmé ne pas avoir obtenu les mêmes résultats que ceux publiés dans d'autres études après avoir reproduit les mêmes expériences. Depuis presque 20 ans, des alternatives ont été développées pour pallier ces problèmes. De nombreuses revues en ligne, publiant exclusivement en libre accès sans coût, ont vu le jour. Des plateformes comme Archive et BioArchive permettent de mettre en ligne des manuscrits qui n'ont pas encore été soumis à la peer review, donnant accès à la recherche la plus récente et permettant aux chercheurs d'un même domaine de recevoir des commentaires constructifs sur leurs travaux. C'est dans ce contexte que des membres du collectif Solving for Science à San Francisco ont rassemblé 17 chercheurs et chercheuses en immunologie et en cancérologie à travers les États-Unis. Leur but ? Lancer un projet complémentaire, le Discovery Stack, qui propose une autre manière d'effectuer le peer review. Ils ont publié leurs premiers résultats sur la plateforme BioArchive au mois de novembre 2025. Étape 2. Révision en deux temps. Le principe de leur projet est simple. Effectuer des peer reviews indépendamment des revues scientifiques, avec une évaluation claire et séparée de la qualité et de l'impact d'un manuscrit. Alors concrètement, ça donne quoi ? Pour ce premier essai, le collectif a contacté plusieurs équipes dans leur domaine d'expertise, à savoir l'immunologie et la cancérologie, qui attendaient la validation d'une revue scientifique pour un manuscrit. Entre leurs contacts et des récentes publications qu'ils ont trouvées sur BioArchive, ils en ont obtenu 15. Ils en ont aussi ajouté 3, issus de BioArchive, sans participation active de leurs auteurs à l'étude. 3 chercheurs ont été attribués à chaque manuscrit pour une évaluation de sa qualité, autrement dit, de sa rigueur scientifique. Contrairement à un peer review classique, laissé à la discrétion de l'évaluateur, cette évaluation comprenait un formulaire avec une liste de critères précis. Par le formulaire, les auteurs des manuscrits pouvaient avoir une vue d'ensemble plus uniforme de la rigueur scientifique de leurs travaux, qui évaluait 4 points cruciaux. Si les conclusions étaient bien étayées par les résultats expérimentaux, si la méthodologie expérimentale et les analyses statistiques étaient cohérentes et robustes, si les conditions et la taille des échantillons utilisés étaient adéquates pour garantir des résultats reproductibles, et si le manuscrit était suffisamment clair et détaillé. Le formulaire répond à un besoin de critères plus homogènes et transparents dans le procédé de peer review, mais ne permet pas à lui seul un retour précis et constructif. C'est pour cela que les reviewers devaient également ajouter des commentaires directement dans les marges du manuscrit grâce à une plateforme en ligne comme les chercheurs le font déjà avec leurs collègues lors de l'écriture d'un manuscrit. Cette approche plus intuitive et directe remplace l'habituel compte-rendu global. Pour améliorer encore la transparence, les évaluateurs avaient la possibilité de laisser leur nom dans leurs commentaires au moment de les montrer aux auteurs. C'est sur cette plateforme commune que les auteurs ont ensuite pu répondre aux commentaires laissés sur leur manuscrit à tous les évaluateurs en même temps. Comme il s'agissait d'un essai pour ce système, aucune expérience supplémentaire n'a été effectuée à la suite des commentaires des évaluateurs. Toutes les évaluations et les échanges avec les auteurs ont ensuite été utilisés pour évaluer l'impact potentiel de chaque manuscrit. Inclure l'impact dans un peer review a été pensé pour aider les chercheurs à prioriser les articles aux découvertes les plus importantes pour l'avancée de la recherche, sans pour autant invisibiliser les articles à l'impact moindre, mais de haute qualité. Ces derniers pourraient inclure des reproductions d'autres études, venant confirmer ou infirmer leurs résultats et renforcer ainsi la solidité des connaissances dans leur domaine. Ils peuvent aussi inclure des articles dont les résultats ne sont intéressants que pour une audience restreinte. Cette métrique étant plus subjective que la qualité, elle a été évaluée par 6 chercheurs pour chaque manuscrit, incluant les 3 chercheurs qui avaient déjà évalué sa qualité. Cette fois, ils n'avaient qu'un formulaire à remplir. Ils commençaient par une question ouverte, leur demandant si les données d'évaluation sur sa qualité influençaient leur appréciation de son impact. Puis, des questions englobant 5 manières pour un article d'avoir de l'impact. Soit en transformant les manières de faire dans un ou plusieurs domaines, soit par la généralisation de ses conclusions, l'avancée technologique qu'il permet, l'éclairement d'une zone d'ombre importante dans le domaine concerné, ou la meilleure compréhension de mécanismes biologiques. Contrairement au système classique, dans lequel la révision d'un manuscrit est bénévole, chaque évaluateur a été gratifié à raison de $30 pour une évaluation qualité et $20 pour une évaluation de l'impact. Voilà donc un système sans intermédiaire entre les scientifiques qui permet d'apprécier les travaux de recherche indépendamment de leur impact en commençant par évaluer leur qualité et qui gratifie, du moins symboliquement, les évaluateurs participants. Alors, selon ce premier essai, est-ce qu'il fonctionne? Et si oui, apporte-t-il une valeur ajoutée par rapport à celui qui existe déjà? Étape 3. Retour d'expérience. Avant de découvrir comment les auteurs et les évaluateurs ont apprécié ce système expérimental, il est important de garder en tête qu'il constitue un échantillon non représentatif de la communauté scientifique. Déjà, seuls les domaines de l'immunologie et de la cancérologie étaient représentés, à cause de l'expertise restreinte des chercheurs à l'initiative de cette étude. Ensuite, les évaluateurs comme les auteurs ont été contactés directement par le collectif, qui a d'abord sollicité ses contacts préexistants. Plusieurs participants étaient donc sûrement déjà favorables à ce nouveau dispositif. N'oublions pas bien sûr le faible nombre de manuscrits, qui cumulent au total plus de 160 évaluations issues de l'étude, mais dont certains ont pu être en partie évalués par les mêmes chercheurs. Enfin, seuls 11 auteurs sur les 15 représentants contactés ont complété l'enquête de satisfaction. Le point le plus controversé, qui a suscité le plus d'avis négatifs tant chez les auteurs que les évaluateurs, concernait la plateforme pour commenter les manuscrits, qui existait déjà avant l'étude. Une petite minorité des participants l'a trouvée difficile d'utilisation, ce qui a dû biaiser partiellement les résultats de satisfaction. Commençons par les évaluateurs. Ont-ils préféré les critères d'évaluation plus précis? Qu'ont-ils pensé du fait d'évaluer séparément la qualité et l'impact d'un manuscrit? Eh bien, dans l'ensemble, c'est un succès. Alors déjà, les chercheurs ont pu confirmer une première intuition. Pour chaque article, les évaluations sur la qualité sont plus homogènes que les évaluations sur l'impact. Mais si l'appréciation de l'impact est plus subjective, il existe une corrélation positive entre les deux. Plus de 90% des évaluateurs de l'impact ont confirmé que les retours sur la qualité du manuscrit les ont aidés dans leur évaluation. Une légère corrélation positive a d'ailleurs été trouvée entre l'impact évalué par les évaluateurs de Discovery Stack et l'impact connu de la revue qu'avaient choisi les auteurs pour être publiée. Pour plus de 80% des évaluateurs, la séparation des deux paramètres était vue comme une meilleure manière d'apporter des retours constructifs, mais aussi d'établir des critères rigoureux pour chacun d'entre eux. Et ce, même si 55% pensent que l'impact d'un article ne peut être vraiment déterminé que par le temps. Pour 70% d'entre eux, le fait de commenter le manuscrit à l'attention des auteurs et non d'une revue leur a paru plus agréable, tant d'un point de vue technique qu'humain. En prenant en compte le temps passé à produire l'évaluation et la qualité de leur retour, 55% des évaluateurs ont considéré que les retours qu'ils ont apportés par le formulaire et les commentaires dans le manuscrit étaient plus efficaces qu'un peer review traditionnel. L'impression d'être plus rapide et efficace s'est d'ailleurs traduite dans les faits. Pour les manuscrits déjà publiés au moment de l'analyse, il aura fallu 200 jours en moyenne pour être acceptés par leur revue de choix. Pour les autres, le temps d'attente total était proche de 400 jours en moyenne. Avec le Discovery Stack, le temps de révision était d'environ 80 jours en moyenne, en comprenant les retours sur l'évaluation de la qualité et de l'impact. L'étape critique pour la durée d'attente était l'évaluation sur la qualité, qui prenait en moyenne 45 jours. Plus de 55% des auteurs affirment avoir reçu leur évaluation qualité plus rapidement que la première révision par la voie traditionnelle. Parmi eux, la moitié affirme qu'elle a été beaucoup plus rapide. Il faut pourtant noter qu'aucune différence significative n'a pu être observée entre l'attente jusqu'au retour qualité et l'attente jusqu'à la première réponse d'une revue scientifique. Les auteurs, justement. Que pensent-ils de ce procédé par rapport à celui qu'ils avaient déjà entamé avec des revues scientifiques? Avec seulement 11 réponses, les avis sont plus mitigés. 45% ont trouvé que le peer review généré par Discovery Stack était de meilleure qualité, dont un quart qui l'ont trouvé bien meilleur. 45% ont trouvé que les retours étaient de qualité équivalente et 10% ont trouvé que les retours étaient de bien moins bonne qualité. Lorsque 80% des évaluateurs ont affirmé que, par rapport au système traditionnel, la méthode du Discovery Stack favorise l'amélioration du manuscrit, ce chiffre est tombé à 55% chez les auteurs. Mais avec plus de 40% d'auteurs qui trouvent que Discovery Stack favorise grandement cette approche plus constructive, on constate que leurs avis sont encore une fois moins homogènes que ceux des évaluateurs, qui représentent plus de 60 participants. Les auteurs étaient aussi divisés par la méthode de Discovery Stack pour établir des critères d'évaluation standardisés sur l'impact. Plus de 40% y étaient très favorables, mais 20% étaient totalement contre. À titre de comparaison, 30% des évaluateurs y étaient très favorables, 50% favorables et moins de 10% étaient contre ou totalement contre. Là où ils tombent d'accord, c'est sur l'absence d'intermédiaires. Près de 90% des auteurs ont trouvé que l'interaction directe avec les évaluateurs était une bonne méthode pour clarifier les retours et accélérer le processus de peer review. 85% ont aussi trouvé que le formulaire d'évaluation qualité a clairement résumé les points forts et les points faibles de leur manuscrit. Ces chiffres nous permettent d'affirmer que, de manière générale, les évaluateurs comme les auteurs étaient satisfaits de leur expérience avec le Discovery Stack. Autre résultat intéressant, les aspects les plus appréciés de ce système étaient aussi les plus demandés par les participants pour un éventuel développement du projet. Une approche plus axée sur l'amélioration des manuscrits, une plateforme gérée par des scientifiques indépendants des revues et une accélération du processus entre la soumission au peer review et la publication des travaux était considéré comme très important ou absolument essentiel pour 80 à 90% des participants s'ils devaient envisager l'utilisation d'une telle plateforme. 90% des participants ont également déclaré comme très important un statut validée par les pairs. Et 70% des participants ont affirmé qu'ils seraient prêts à publier leurs articles sur une plateforme qui utilise des critères scientifiques pour en évaluer la qualité et l'impact. Discovery Stack est une initiative qui se distingue par sa remise en question du peer review en lui-même. Au-delà de l'indépendance envers les revues, elle propose à la communauté scientifique d'établir des critères plus clairs pour favoriser les retours constructifs, en opposition avec le système actuel qui s'en sert pour accepter ou rejeter la publication d'un manuscrit. En distinguant la qualité d'un article de son impact, elle pose les bases d'un système de valorisation de la recherche différent. En fonction de ce dont une équipe de recherche aurait besoin, elle pourrait focaliser son analyse de la littérature sur de nouvelles découvertes impactantes ou sur des travaux de reproductibilité, pour vérifier ses premières intuitions. Ce projet compléterait d'autres initiatives encouragées par la communauté scientifique. En plus des études de reproductibilité, les résultats négatifs sont une denrée très rare dans les publications. Ils représentent pourtant la majorité des résultats en recherche. En 2011, le chercheur Daniel Fanelli a publié les résultats de ses analyses sur 4600 articles publiés entre 1990 et 2007. La fréquence des articles à résultats positifs a augmenté de 22% et de façon plus marquée dans les sciences sociales et biomédicales. Il constituerait aujourd'hui plus de 86% de la littérature. Lorsque les résultats négatifs ne sont pas dus à une erreur d'expérimentation ou d'analyse statistique, deux obstacles majeurs s'opposent à leur publication. Le premier, c'est que mettre en forme des données et les décrire clairement dans un manuscrit prend du temps. Le deuxième vient de la pression à publier, communément appelée « publish or perish ». D'un côté, les éditeurs des revues ne valorisent presque pas les résultats peu concluants. De l'autre, les institutions qui financent la recherche sélectionnent les équipes à financer en fonction de leur publication dans de bonnes revues, le critère principal pour juger la pertinence de leurs travaux. Certaines revues, comme l'initiative française Negative Results, ou des prix comme le Best Negative Data Prize proposé par l'Association européenne en neurosciences ENCP, permettent de mettre en valeur cet aspect critique de la recherche. Mais sans le soutien des mécènes, elle risque de rester marginale, voire de disparaître comme d'autres initiatives précédentes. La bonne nouvelle, c'est que c'est précisément dans ces débats que les citoyens peuvent faire bouger les choses. Financer la recherche fondamentale, mais aussi les travaux sur la recherche en elle-même, voilà des idées de bonnes résolutions pour les années à venir. Sur ce, je laisse vos neurones cogiter là-dessus et vous souhaite une bonne soirée en attendant le prochain épisode.
C'était Boulot Manquant. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur Radio Campus Paris 93.9 FM.